RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le Sport au cœur de la foi, avec cette semaine un invité exceptionnel, le footballeur professionnel Maxime Chano, qui évolue à New York City et qui évolue en équipe nationale du Luxembourg. Bonjour de New York, Maxime.
Salut Joël, salut à tous.
Alors merci beaucoup Maxime de répondre à mes questions. À l'heure qu'il est, il est tôt à New York. Merci de faire cet effort alors que vous êtes en route pour l'entraînement. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez été formé à l'AS Nancy Lorraine, puis vous avez évolué au Stade de Reims et vous êtes parti ensuite très jeune en Angleterre. Je voulais savoir si comment vous analysez ce départ aussi précoce outre-Manche, et quels souvenirs vous en gardez ?
En ce qui concerne votre question, ce fut une expérience un peu difficile de partir aussi jeune à l'étranger. J'avais à l'époque que 17 ans. Je venais de passer 4-5 ans dans les centres de formation en France où tu es couvé, où est-ce qu'on s'occupe de tout autour de toi, donc tu as que à penser au football. Et à 17 ans, je me retrouve à être dans le monde dans le grand bain du professionnalisme, où est-ce que le niveau footballistique est bien plus dur, et surtout où est-ce que tu dois te prendre en main en tant qu'humain, en tant que personne. Et c'est vrai que cette expérience en Angleterre à 17 ans, je ne parlais pas la langue, fut très compliquée les premiers mois, mais avec du recul très bénéfique. Aujourd'hui, je suis l'homme que je suis grâce à cette expérience, donc j'en garde que du positif, même si footballistiquement parlant, ça n'a pas été très concluant, puisque j'ai fini mes 3 années à Sheffield en ayant joué très peu de matchs. Mais voilà, si je suis peut-être aujourd'hui à New York, c'est grâce à ça, donc je suis très content.
Et justement, est-ce que c'était révélateur d'une certaine instabilité personnelle, de chercher vos marques, dans qui vous étiez, peut-être dans la situation familiale, vous êtes passé quand même dans 2 centres de formation, de Nancy puis Stade de Reims, je crois que vous êtes fait exclure de Nancy, ou renvoyer, et puis après partir en Angleterre, c'était un peu le grand saut, un peu à l'époque, enfin peu de jeunes faisaient ça. Est-ce que ça marquait une certaine instabilité ? Qu'est-ce que vous recherchiez en allant en Angleterre aussi jeune ?
Je pense pas, non, pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup de jeunes professionnels, ça n'a pas marché à Nancy pour des raisons sportives, aussi extra-sportives, donc ça ne m'a pas forcément aidé. Et puis mon départ vers Sheffield United, qui à l'époque était en première ligue, donc qui était dans l'un des meilleurs championnats du monde. C'était un objectif quand tu commences le foot dans les centres de formation. Le but, c'est à terme de pouvoir jouer chez les pros. J'ai eu la chance d'avoir ce contrat qui m'a été proposé en Angleterre. Donc voilà, c'était une finalité entre guillemets. C'était un objectif, un but. Donc une instabilité peut-être, oui, vu de l'extérieur. En effet, on voit que le joueur a fait plusieurs clubs en étant jeune. Maintenant, voilà, j'aurais pu percer dans mon club qui m'a formé. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu la chance d'avoir mon contrat qui m'attendait en Angleterre. Donc non, en fait, j'en tire pas de. Je pense pas qu'il y a de choses cachées derrière ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est la chance que j'ai eue. Donc voilà, je l'ai saisie et je voulais absolument devenir professionnel. Voilà pourquoi je suis parti en Angleterre.
Et alors, cette expérience à Sheffield, c'est quand même un club mythique, même s'il a régressé aujourd'hui, mais à l'époque où vous étiez, 3 ans de contrat, là on vit pleinement son rêve de footballeur. Est-ce que vous étiez le plus heureux des hommes ? Est-ce que vous avez atteint votre rêve ? Et est-ce que ça comble un homme ?
Eh bien oui, enfin, c'est assez paradoxal. Ça a duré seulement quelques jours, où est-ce que tu es forcément très fier, tu as signé ton contrat, ta famille est très contente pour toi. Ça récompense un peu tous les efforts que tu as fait en étant plus jeune, les centres de formation. Je pensais qu'en soi, ça serait une finalité et que je serais le plus heureux du monde. Et finalement, tu te rends compte que professionnellement parlant, footballistiquement parlant, c'est en fait que le début. Tu as fait les limites le plus facile. Parce qu'un contrat sur une table ou un contrat dans la poche, c'est pas grand-chose. Au final, le plus dur allait commencer. Je m'en suis vite rendu compte dès mes premiers jours d'entraînement avec le club.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi. Je reçois le footballeur professionnel qui évolue à New York City, Maxime Chano. Et après cette expérience à Sheffield, vous revenez en France. Vous arrivez, il me semble, au Mans, le club cool. Puis vous allez à Guignon, le club cool. Est-ce que vous avez pensé à abandonner le football ? Est-ce que ça, à un moment, vous êtes dit, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver ?
Pour le coup, je rentre en France parce que, en Angleterre, j'ai très peu joué en 3 ans, j'ai été prêté, et puis j'ai eu la possibilité de rentrer en France, de reprendre un cursus normal, c'est-à-dire dans mon pays d'origine, puisque je suis franco-luxembourgeois. J'avais envie de reprendre pas à zéro, c'est pas vraiment le terme, mais de me remettre dans la norme. Et donc j'ai la chance de signer au Mans, ça marche pas bien non plus parce qu'il me faut, bizarrement, il m'a fallu énormément de temps pour m'adapter au football anglais, mais une fois que je me suis adapté, il m'a fallu autant de temps pour me réadapter au football français. Et j'avais signé qu'un an à l'époque, un ou deux ans, je me souviens plus. Et donc ça marche pas bien au Mans. Je rentre à Guignon pour me relancer, parce qu'à l'époque j'ai 19 ans et Guignon est en national, ils descendent de Ligue 2, ça peut être un bon tremplin pour se faire voir. Et en effet, le club cool, financièrement, le club a été plus ou moins bien géré, ce qui fait qu'on a des retards de paiement. Donc ça fait 2-3 expériences un peu compliquées entre l'Angleterre, entre Le Mans et Guignon. Bien que j'ai pas connu la faillite au Mans, puisque je suis parti quand même 2 ans avant. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne ma carrière, il arrive un moment où tu te poses énormément de questions parce que tu te dis que ça devient compliqué et que tu t'attends pas à ça quand tu commences le foot. Mais ça fait partie d'une carrière de footballeur et même si j'ai eu énormément de doutes, énormément, je dis bien, j'ai quand même toujours gardé confiance en moi et finalement ça a payé, donc j'ai bien fait.
Et justement, à quoi vous vous êtes rattaché à cette période-là, au moment où c'est difficile ? J'ai lu dans la presse ou même vu à la télé qu'à un moment vous aviez même pas de quoi remplir le frigo, ça a été compliqué avec les retards de salaire. Peut-être vous aviez grillé ce que vous aviez gagné à Sheffield. Comment on gère ça ? Et psychologiquement, ça doit être très éprouvant.
C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Un footballeur professionnel ne gagne pas forcément très très bien sa vie comme on pense. Il y a vraiment deux footballs, c'est-à-dire ceux qu'on voit à la télé dans les grands clubs qui en effet vivent avec des grosses sommes, et puis les footballeurs professionnels plus modestes qui parfois vivent avec 1 500, 2 000, 3 000 euros et beaucoup plus que vous ne le pensez. Spécialement les premiers contrats quand tu es jeune, c'était un peu mon cas. Donc lorsque tu as un retard de paiement pendant 2, 3, 4 mois et que tu gagnes 1 500 euros, ça devient tout de suite difficile. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été très très compliqué parce que j'avais eu des petits salaires revenant d'Angleterre pendant 2, 3 ans sans être payé. Et il a fallu m'accrocher. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme lorsque j'avais 16 ans. On est resté toujours très très soudés. Et voilà, on s'est serré les coudes. Il y a eu des mois où on mangeait moins, des mois où on se voyait pas parce qu'on habitait loin l'un de l'autre et qu'on pouvait pas se payer le train, mais voilà, toujours avec le même objectif de dire que ça allait payer un jour et voilà, c'est pour ça, c'est une belle leçon de la vie, il faut jamais lâcher et on est parfois plus proche du but que l'on ne pense, donc ça voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec moi.
Comment on est suivi dans ces moments-là ? Est-ce que les clubs font quelque chose ? Est-ce que vous aviez besoin de parler à un psychologue, peut-être à un prêtre, à un pasteur, je ne sais pas, moi qui milite pour l'aumônerie du sport, quel était un petit peu le moyen ? Alors vous aviez votre amie qui est devenue aujourd'hui votre femme pour vous aider, mais de manière peut-être plus spécifique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour le footballeur quand il est au fond du trou ou qu'il y a des problèmes financiers autour ?
Non, du tout. Et c'est vrai que c'est une chose dans le football qu'il faut encore, améliorer. J'ai toujours tendance à dire que si j'avais un fils, je ne le ferais jamais jouer au foot parce que la réalité du milieu est très très difficile. Dans ces moments-là, je me suis retrouvé seul, avec aucune cellule pour m'aider, que ça soit financière ou psychologique. Donc vous allez dire que oui, en effet, après c'est pareil dans la société de nos jours, mais faut remettre dans le contexte qu'on a 17, 18, 19, 20 ans, qu'on a encore des enfants, qu'on s'assume seul. Et non, ça a été archi difficile. Donc sans la présence de tes parents, ou alors de ma copine qui est devenue ma femme, ça aurait été très très difficile. Et il s'est pas passé un jour sans lui, sans que je vous dise que j'allais arrêter le foot, parce qu'il arrive un moment, il faut bien manger, il faut remplir ton frigo, et le foot me le permettait plus. Donc oui, non, ça a été avec le contexte, j'oublie avec le temps, mais si je reviens dans le passé et que je me remets dans cette situation-là, ça a été très 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 difficile, vraiment, vraiment très très difficile.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi. Je reçois le footballeur professionnel qui évolue à New York City, Maxime Chano. Alors Maxime, sur les réseaux sociaux, vous parlez régulièrement de Jésus. Quel a été votre rapport à la foi? Comment vous en êtes venu à vous intéresser à Jésus? Est-ce que c'est à travers toutes ces péripéties que vous avez vécues au début de votre carrière?
Mais c'est exactement ça. Vous m'avez demandé un peu plus tôt... dans ces situations-là, est-ce qu'on a une aide psychologique de la part des clubs ou autre, et donc ça n'avait pas forcément été le cas, et donc j'ai eu la chance, j'ai eu une énorme chance, parce que je me sens vraiment privilégié de ce qui m'est arrivé, de rencontrer à ce moment-là notre Dieu, Jésus. Ça s'est passé un soir de 2010. Je venais de sortir d'une grosse blessure à Guignon, on n'était plus payé, des difficultés financières, professionnelles, bon, ça a été très très compliqué. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Seigneur un jour, et voilà, c'est ce qui m'a repoussé vers l'avant. C'est un peu compliqué à peut-être comprendre de l'extérieur, mais ce fut pour moi un des plus beaux jours de ma vie, et aujourd'hui, si je suis épanoui comme ça, c'est grâce au Seigneur, et c'est grâce à cette rencontre.
Alors comment s'est fait cette rencontre? C'était un héritage familial? C'est un autre joueur qui vous a témoigné? Vous avez fait des recherches sur Internet ou trouvezlebonheur.com? Ou comment ça s'est fait?
Non, ça aurait été si simple, non. Et ce qu'il faut savoir dans la foi, et ça je ne vous l'apprendrai pas, c'est compliqué de la trouver. Quand je dis la foi, je parle de manière générale. Lorsqu'on ne la vit pas de soi-même, l'expérience de soi-même. On peut te donner tous les conseils du monde, quand ça vient pas de toi-même, c'est compliqué quand même de la sentir. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que ma femme était très croyante, très très croyante. Elle est née dedans, elle a pratiqué depuis que je la connais, depuis nos 16 ans. Je la voyais en harmonie avec elle-même, mais tant que tu as pas ce déclic qui vient de toi-même, c'est compliqué de te retrouver dans cette situation-là. Et c'est ce qui s'est passé avec moi-même. Donc, je suis né de parents catholiques qui n'étaient pas forcément pratiquants. J'ai grandi dans cette harmonie-là sans forcément pratiquer. Je l'ai perdu un petit peu à mon adolescence, qui fut mon plus grand regret aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est voilà, j'étais vraiment au fond du trou. Je venais de passer 3 ans, comme je vous l'ai dit, un peu très très compliqué, où je me remettais beaucoup en question, et je venais de me blesser. Ça faisait 5 mois que j'étais blessé. Je n'arrivais plus à marcher. C'est véridique. J'étais à l'époque dans un hôpital pour faire ma rééducation, et j'étais vraiment à bout. Dans ma tête, ça y est, le foot c'était terminé. Je m'étais même réinscrit à l'école, pour vous dire. Et puis un jour, il était très tard, puisque je voulais même plus faire mes soins, parce que j'étais vraiment, vraiment au fond du trou. J'avais extrêmement mal à mon pied. Un jour, il était 1 ou 2 heures du matin. J'étais devant ma télé. Je venais de fermer mon poste, et je m'étais mis dans le noir. Et je vous assure que c'est vrai, hein, ce qui s'est passé. J'ai quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, c'était une infirmière qui est venue me voir et qui m'a déposé la Bible à côté de moi, sur ma table de nuit, et qui m'a dit « Tiens, Lila, ça te fera du bien. » Et elle est repartie. Je n'ai jamais revu cette femme. C'était une infirmière qui travaillait, elle était habillée en infirmière. Je n'ai jamais, jamais revu cette femme dans cet hôpital. En 5 mois, j'y suis resté. Et voilà, c'est parti. Là, j'ai commencé à lire la Bible. La Bible est restée pendant 2-3 jours. Je voulais pas vraiment l'ouvrir, parce que j'avais beaucoup de questions en moi. Et voilà, je me sentais pas prêt. Et puis, petit à petit, je me suis mis à l'ouvrir. J'ai lu une page. J'ai lu une deuxième page, et puis ça m'a intéressé. Et bizarrement, 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'ai recommencé à marcher. Et puis un mois après, j'ai recommencé à courir. Et 2 mois après, j'ai recommencé à jouer au foot. J'ai retrouvé cette envie. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ce que j'ai pu vivre, mais ça a été une révélation et un des plus beaux jours de ma vie.
Merci beaucoup Maxime Chano d'avoir répondu à mes questions depuis New York. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine de découvrir encore la suite de votre parcours. Et je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le Sport au cœur de la foi, avec comme invité Maxime Chano qui évolue actuellement à New York, avec qui on continue la deuxième partie de notre entretien. Bonjour Maxime.
Salut Joël, salut à tous.
Alors Maxime, dans la première partie, vous nous avez expliqué votre cheminement, comment vous avez réussi à devenir footballeur professionnel après plusieurs péripéties aussi au cours de votre carrière et de cette rencontre que vous avez fait avec Christ à travers la lecture de la parole, à travers une Bible qu'on vous a offert à l'hôpital, à travers une rencontre mystérieuse. Et alors, qu'est-ce que vous avez compris de la Bible à ce moment-là? Qu'est-ce que ça a apporté comme lumière à votre recherche?
Mais pour moi, ça a été un soutien, ça a été une force. J'ai compris que mon rôle, c'était de pouvoir aider ma famille, et j'avais besoin d'une force pour pouvoir m'aider. Aujourd'hui, c'est la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, il m'a juste fallu peut-être vivre ce que j'ai vécu pour m'en apercevoir, tomber un peu plus très bas pour remonter. Et aujourd'hui, en tout cas, enfin, je me vois plus vivre sans le Seigneur. Et paradoxalement, depuis ce jour-là, ma carrière ne fait que augmenter, grâce à Dieu. Et j'ai aucun doute que c'est grâce au Seigneur.
Aujourd'hui, vous évoluez aux États-Unis. Vous êtes français, mais aussi luxembourgeois. Vous jouez pour l'équipe nationale. Où est-ce que c'est le plus facile d'être un footballeur professionnel et en même temps chrétien? Dans quel environnement vous le vivez le mieux?
Eh bien, pour avoir eu la chance de jouer en France, en Angleterre et aussi en Belgique, je vais peut-être vous surprendre, mais le plus simple aujourd'hui pour allier la religion chrétienne et le football, c'est les États-Unis, c'est où je me trouve aujourd'hui. Je pense que ça fait vraiment partie intégrante du pays de manière générale, et plus précisément dans le football, on a énormément de joueurs qui sont croyants, évidemment, comme aussi en Europe, mais aussi pratiquants. C'est-à-dire qu'il est assez fréquent de prier tous ensemble avant les matchs. C'est même quasiment un rituel. Nous avons la chance d'avoir un pasteur qui se déplace au club, donc ça nous permet de prier ensemble aussi. Et de manière générale, en dehors du foot, voilà, c'est un pays qui, avec une foi qui est ancrée dans l'histoire justement des États-Unis. Et en tant que chrétien, c'est vrai que nous, on s'épanouit pleinement, moi et mon épouse, aux États-Unis par rapport à ça.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec Maxime Chano qui évolue à New York City. Alors il y a quelques mois, j'ai accueilli Aurélien Collin qui joue au New York Red Bulls, qui est aussi chrétien, qui a participé au documentaire sur les footballeurs chrétiens hors jeu que l'on peut retrouver sur plusquesportif.org. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, Aurélien Collin? Et est-ce qu'il est envisageable de voir deux joueurs de New York prier ensemble lors d'un derby?
Ça serait une bonne idée, d'ailleurs, je vais lui soumettre l'idée. j'ai eu la chance de le voir avant le début de la saison. On a une sorte de préparation, une mini coupe qui s'est déroulée en Arizona, où est-ce que le climat était bien meilleur qu'à New York. Et on s'est retrouvé New York City et New York Red Bulls. On a eu la chance de le voir à la fin d'un match, de bien discuter. On a d'ailleurs prévu essayer de se voir et de manger un repas avec notre pasteur qui se déplace aussi bien au Red Bull qu'à New York City. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire et qui sera bientôt d'actualité. Et quant à prier avant un match, ouais, c'est une bonne idée. Au final, le plus important, c'est outre le résultat sportif avant un match, c'est de représenter le Seigneur et à travers une prière, c'est quelque chose de fort, c'est significatif, et justement, ça prouve aussi qu'on peut mettre un peu la rivalité de côté quand il s'agit de se retrouver autour du Seigneur.
Et est-ce que justement, alors peut-être pour ceux qui ont vu le film Woodlawn, hein, un film sur le football américain, on retrouve cette image. Est-ce que les derbies de New York sont chauds? Parce qu'on parle des derbies ici en France, il y a souvent des tensions, des émeutes. Comment ça se passe aux États-Unis en MLS? Il y a cette ferveur?
Oui, il y a cette ferveur, forcément. Chacun représente son club, chacun représente c'est l'identité. Le football aujourd'hui, un club de foot représente l'identité d'une personne qui est fan de football. Au niveau de la ferveur, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a en termes d'affluence dans les stades vraiment une influence qui est assez élevée. Vous ça a peut-être surpris de vue d'Europe, ça nous arrive assez souvent de jouer devant plus de 30 000 spectateurs, du moins c'est le cas à New York City. Je sais que l'année dernière on a même fini presque avec 38 000 à un moment, un dernier match, donc c'est quand même quelque chose qui est en tout cas, moi, n'était pas forcément fréquent où je jouais en Belgique, même si on avait une belle influence. Ici c'est encore un cran au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis, parce que c'est New York et qu'il y a forcément beaucoup de gens. Donc en ce qui concerne le derby, j'ai pas eu encore la chance d'en jouer un, puisque l'année dernière je suis arrivé en cours de saison et New York City venait de jouer le Red Bulls, le match retour. Donc là, c'est, il me semble, on a le derby qui doit tomber début juin, quelque chose comme ça. Donc je vous dirai, on va bien voir comment ça va se passer, mais j'ai vu quelques photos et en effet c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans le stade et forcément chacun veut gagner ce match, c'est quelque chose de spécial.
Bon, l'appel est lancé à notre ami Aurélien Collin et on espère voir sur les réseaux sociaux une belle photo de ce moment d'unité aussi qui lance un message à New York. Justement, comment se passe votre vie à New York? Est-ce que c'est facile de trouver une église locale dans une mégapole comme ça et de réussir à s'y intégrer, à se faire des amis en dehors du football, d'avoir des frères et des sœurs dans la foi?
Oui, c'est un peu ce qui nous a, enfin ça a été toujours la première chose qu'on a faite quand on avait, parce que j'ai quand même pas mal bougé de club, même en Belgique. C'était la première chose qu'on faisait le premier dimanche après avoir signé, c'était d'aller trouver notre église. En l'occurrence à New York, on en a fait plusieurs avant d'en trouver une. Et on en a trouvé une église, une messe le dimanche matin à 10h qui se trouve en plein New York, juste au-dessus de Central Park, qui est une église française. Du moins une messe française et c'est juste exceptionnel parce que c'est un mix entre une messe qu'on peut voir en France et le gospel que tu peux voir aux États-Unis comme on voit dans les films. Donc c'est un super mix. Moi je sais que c'est mon meilleur moment de la semaine, savoir que j'ai joué le samedi et que je puisse aller à ma messe le dimanche. Et il y a forcément énormément de Français, une communauté française qui est vraiment présente à New York. Et c'est ce qui nous a aussi permis de rencontrer beaucoup de gens, puisque forcément entre francophones, mais on s'aide. Et à travers la foi, enfin, on a la chance de pouvoir échanger. Il y a, après chaque messe, un groupe de parole où est-ce qu'on peut boire notre café, où est-ce qu'on peut se retrouver. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui nous ont ensuite aidé pour l'installation à New York grâce à cette église et grâce à cette messe. Donc ça a été un super plus pour nous.
Et est-ce que c'est facile d'être une personne normale dans une église, quelle qu'elle soit, d'être apprécié pour qui on est et pas pour ce qu'on fait et ce qu'on représente?
Ben oui, tout simplement dans un premier temps, parce que en tant que footballeur aux États-Unis, même si c'est un sport qui monte, je vous dis, avec de plus en plus de gens qui suivent le foot, tu restes plus ou moins quand même anonyme aux États-Unis, du moins à New York, dans une grande ville comme celle-ci. Et puis deuxièmement, tout simplement parce que dans l'église, peu importe ton statut social, peu importe ton métier et d'où tu viens, on est tous égaux. On est tous égaux et donc forcément quand tu passes les portes de l'église, peu importe qui tu es, le nom ou ce que tu as fait, tout ça c'est oublié, tu es fils de Dieu et donc les gens ne jugent pas pour ça. Et c'est aussi justement ce qu'il y a de bien dans l'église, c'est que ouais, on est tous sur le même piédestal et le plus important c'est notre foi.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi. Je reçois le footballeur professionnel qui évolue à New York City, Maxime Chano. Comment vous préparez vos matchs, les grandes compétitions? Est-ce que vous demandez à Dieu de gagner? Question piège.
Et on a souvent cette discussion-là avec... ouais, c'est une question piège qu'on a souvent, cette question-là avec le pasteur récemment, on en a reparlé. Non, moi, le plus important pour moi, je vous dis, c'est je prie tous les jours, plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, ma mission, parce que je pense que chaque chrétien a une mission, la mienne, c'est de pouvoir transmettre mon histoire, justement, pour que les générations qui arrivent, pour que mes petits frères, même les plus vieux, puissent peut-être se rapprocher de Dieu. Donc moi, lorsque je prie, je porte vraiment une importance importante, je place une... Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important de placer ça dans mes prières. En ce qui concerne le résultat, j'ai toujours eu l'habitude de dire que c'est Dieu qui décide, puisqu'on ne contrôle pas grand-chose, même rien du tout. Tout se passe entre les mains de Dieu. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je demande. Le plus important, c'est de faire la volonté du Seigneur. Et puis, je sais que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de bon pour moi. Donc,
est-ce que la Bible a une place importante dans vos préparations de match? Et quel est le verset qui vous a le plus chamboulé ces derniers temps et qui vous a fait avancer dans votre vie?
Oui, la Bible est très importante pour moi. Je pense que à chaque fois que j'ouvre la Bible et que j'ai fini de lire, que je la referme, je me sens apaisé. Je me sens apaisé et surtout, je vois très clair. J'y vois plus clair. Donc, c'est clair que la Bible, d'ailleurs, je l'amène partout avec moi. J'ai toujours mon sac à dos, que ça soit à l'extérieur, que je me déplace en match. J'ai toujours la Bible derrière moi. Pour être honnête avec vous, j'ai même une Bible pour enfants. C'est ma femme qui me l'a offert parce que la Bible en elle-même est quand même compliquée à comprendre. Et donc ma femme m'a acheté une Bible pour enfants. Bon, ça remonte à quelques années maintenant et c'est bien plus clair. C'est bien plus simple. Tout est expliqué et tu peux et quasiment la lire seule en la comprenant seule. Donc c'est quand même, enfin, c'est un conseil que je donnerais à ceux qui en tout cas débutent dans la lecture de la Bible. Mais en général, c'est vrai que tous les évangiles de Jésus-Christ me touchent parce que voilà, c'est un bon exemple sur la vie que l'on doit mener et pour trouver le bonheur.
Et qu'est-ce qui vous marque dans la figure de Jésus-Christ?
C'est son humilité. C'est sa force de pouvoir rendre les gens heureux, d'être dans le droit chemin. Je vous dis, c'est tout le monde devrait suivre alors la vie de Jésus, ses commandements, les commandements que le Père lui a donné. Aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est l'exemple même si c'est compliqué de pouvoir vivre comme il a vécu, parce que tu es dans une société où aujourd'hui les choses ont changé, les choses ont évolué, il faut être honnête. Aujourd'hui, Jésus, c'est la perfection.
Dans l'émission Le Vestiaire, vous avez évoqué avoir un fort caractère, ce qui vous a amené à avoir certaines déconvenues. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'intimité sur votre caractère? Qu'est-ce qui vous susurre à l'oreille pour vous transformer?
Je pense que dans un premier temps, il m'a permis de vivre tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire les expériences plus ou moins difficiles, ce qui forcément m'a fait changer, donc ça c'est un premier cadeau qu'il m'a envoyé. J'ai grandi et j'ai évolué et mon caractère, je me suis calmé par rapport à mon caractère justement parce que j'ai pris des claques dans le football, parce que j'ai vécu toutes ces choses-là, parce que Dieu a décidé qu'il fallait que je les vive. Et on a, voilà, ça faisait partie de ce que Dieu avait écrit pour moi. Donc aujourd'hui, oui, je me suis calmé. C'est un mix de tout. C'est aussi, je vous dis, la lecture de la Bible qui fait que quand j'ai fini de lire la Bible ou lorsque je vais à la messe, je suis plus apaisé, je suis plus humble parce que pour moi, l'humilité est la base de la religion et la base de chaque personne. Je pense que si tout le monde avait arrivé à avoir cette dose de minimum d'humilité, il y aurait bien moins de problèmes sur Terre. Donc voilà, aujourd'hui. Dieu me murmure chaque seconde, chaque minute de mon comportement, de mes décisions que je prends pour éviter justement de m'énerver. Et ça peut être difficile à comprendre tant que tu l'as pas vécu, mais en tout cas, c'est ce qui se passe avec moi.
Et aujourd'hui, quels sont vos rêves pour la suite de votre carrière?
Et voilà, ça va. C'est aussi quelque chose qui va avec ma foi. Et j'ai commencé le foot avec plein de rêves, avec plein d'objectifs dans ma tête et bizarrement ça ne s'est jamais passé comme j'aurais souhaité que ça se passe. Donc c'est aussi une leçon que je tire aujourd'hui. Je pense, je suis même sûr, c'est pas je pense, je suis sûr qu'aujourd'hui c'est Dieu qui décide de ton destin, qui a choisi pour toi. Donc des rêves j'en ai, Mais voilà, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est Dieu qui décidera pour moi. Et j'ai aucun doute qu'il me donnera le meilleur.
C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF Alpha.